Voici une question dont la réponse va en surprendre plusieurs. Est-ce que la foi d'une mère peut apporter le salut à son enfant? La parole de Dieu va éclairer beaucoup de gens à ce sujet, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Dans sa bonté, Dieu nous a laissé sa parole qu'on puisse découvrir la vérité dans bien des sujets. Alors voici quelques questions qui couvrent des sujets où Dieu va sûrement nous surprendre aujourd'hui. Pouvons-nous détourner notre attention de l'Évangile dans notre prédication? Est-ce qu'il y a un danger qu'en accomplissant des miracles, on puisse détourner l'attention des gens du but de l'Évangile? Sur quoi devons-nous mettre l'accent quand nous prêchons la parole de Dieu? Est-ce que la foi d'une autre personne peut sauver un pécheur perdu? De quelle manière est-ce que la foi d'un croyant peut aider un pécheur perdu? Est-ce que c'est parce qu'il est bonasse que Dieu pardonne aux pécheurs? Est-ce qu'une personne doit être consciente de son péché pour parvenir au salut offert par Jésus-Christ? Quel est le plus important, d'être en communion avec Dieu ou d'être religieux? La parole de Dieu a toujours la réponse à nos questions. Dieu aime nous instruire, puis il va le faire encore aujourd'hui, par la bouche du pasteur Régent Jody. Alors demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre ce précieux enseignement. Prions. Oui, Seigneur, ton enseignement est précieux. Qu'il le soit particulièrement pour nous aujourd'hui. Dispose nos cœurs en double, s'il le faut, mais qu'on puisse comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous enseigner. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, aujourd'hui, nous voyons le deuxième chapitre de l'Évangile selon Marc. En fait, ce chapitre est une suite du premier chapitre. Débutons notre lecture. Marc, chapitre 2, verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Après une absence de quelques jours, Jésus revient à Capernaum. Comme nous l'avons déjà vu, Jésus-Christ avait aménagé son quartier général à Capernaum, ayant dû quitter Nazareth vu l'hostilité des siens. En autant qu'on puisse voir, son quartier général demeura dans cette ville tout le temps de son ministère public. Nous avons vu dans le premier chapitre que Jésus a dû se retirer à l'écart dans le désert parce que le lépreux qui l'a guéri lui a fait toute une campagne publicitaire, même si Jésus lui avait demandé de ne rien dire à qui que ce soit. Donc, une énorme foule suivait Jésus et l'empêchait d'accomplir sa mission. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus n'a pas voulu être reconnu comme étant un faiseur de miracles. Il ne voulait pas être connu d'abord pour cela. Il ne voulait pas que le lépreux ou quiconque d'autre annonce ses miracles, car il était venu pour un ministère spirituel. Il était venu afin de mourir à la croix pour les péchés du monde. Le type de publicité que provoquent les miracles détourne l'attention de l'Évangile. Je dois vous dire sincèrement et franchement que l'une des raisons pour lesquelles je m'oppose fortement à ceux qui mettent l'accent sur les guérisons et le parler en langue, même si ces dons seraient pour notre époque, c'est que ces personnes mettent la charrue avant les bœufs. Parfois, des gens me disent « Monsieur un tel prêche l'Évangile tout comme toi, mais lui, il guérit les gens en plus. » Oui, mais cette personne est-elle reconnue comme prédicateur de l'Évangile? Est-ce que les gens vont à ces réunions pour entendre l'Évangile? Y vont-ils pour entendre l'Évangile et être sauvés, ou principalement pour être guéris, ou vivre une expérience émotionnelle? Nous avons besoin d'être clairs sur ce point. Notre mission est de prêcher l'Évangile. Nous voyons que tout le sensationnalisme qui a suivi la guérison du lépreux a obligé le Seigneur à s'absenter de Capernaum pendant un certain temps pour ensuite y revenir. Lorsqu'il revint, la population le sut très vite. Dans le texte grec, l'article utilisé suggère une maison très précise. De quelle maison a-t-on parlé dans le premier chapitre? Nous y avons vu que Jésus et ses disciples allèrent à la synagogue le matin et qu'ils sont ensuite allés à la maison de Simon et d'André. Il se pourrait fort bien que lorsque les porteurs ont commencé à défaire le toit pour descendre le paralytique, ils défaisaient le toit de Simon-Pierre. Imaginez quelle a dû être la réaction de Pierre, l'impulsif. Il se pourrait fort bien qu'il ait menacé d'appeler la police. C'est tout de même sa maison. La nouvelle du retour de Jésus et du fait qu'il était chez Simon-Pierre se répandit très vite. Verset 2. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Le ministère de Jésus consistait à annoncer la parole, et c'est là que nous devons aussi mettre l'accent aujourd'hui. Nous devons mettre l'accent sur la parole, son intégrité et son inhérence. Ma prière personnelle est que Dieu me donne d'avoir toujours de plus en plus confiance à sa parole. Je vois ce qu'elle fait dans les vies et les cœurs encore aujourd'hui, et je sais ce qu'elle a fait pour moi. Donc, je devrais avoir encore plus confiance dans la parole que j'en ai présentement. Je vais être honnête avec vous. Il m'arrive parfois de me demander si elle va changer des cœurs ou des vies. Je dois admettre que je n'ai pas toute la foi que je devrais avoir. Cependant, rappelons-nous que nous avons la parole de Dieu et qu'elle ne retournera jamais à lui sans effet. C'est ce que nous pouvons lire dans Ésaïe, chapitre 55, verset 11. « Je me réjouis de voir que le Seigneur leur a annoncé la parole. » Maintenant, portons notre attention sur un autre groupe. C'est une petite délégation de 5 personnes. Ils arrivent à Capernaum après un voyage sur un chemin poussiéreux. Versets 3 et 4. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Nos regards se portent maintenant sur ce petit groupe, un homme paralysé qui n'aurait pu venir de lui-même, car il ne pouvait pas marcher, et 4 hommes qui le portaient sur un brancard. Le groupe arrive. Il ne pouvait pas s'approcher à cause de la foule qui se tenait à la porte et aux fenêtres. Je remarque que ce qui se fait souvent dans l'œuvre, c'est d'établir des comités. Un pasteur compte souvent sur des comités. L'œuvre aujourd'hui s'accomplit par les comités de divers organismes. Quelqu'un a déjà dit qu'un comité rédige des procès-verbaux et gaspille des heures. Un autre a dit qu'un comité est formé de personnes qui ne peuvent rien faire seules, mais qui décident collectivement qu'elles ne peuvent rien faire. C'est ce qui se produit en général. Si ce petit groupe avait fonctionné comme nous, le comité de la porte aurait inspecté celle-ci pour conclure qu'il est impossible d'y entrer. Ensuite, le comité des fenêtres aurait suivi l'exemple du comité de la porte. Heureusement qu'il y a eu le comité du toit qui l'a inspecté et décidé qu'il était possible d'y pratiquer une ouverture. Donc, il est possible que si vous avez suffisamment de comités, l'un d'eux va fonctionner. Quoi qu'il en soit, le groupe a décidé de passer par le toit et il se mit à l'œuvre afin de faire une ouverture. Lorsque le paralytique se trouve devant Jésus, le groupe est embarrassé car il se rend compte qu'il interrompt une réunion. Essayez d'imaginer la scène. Nous ignorons quel était le sujet de la prédication de Jésus, mais elle fut interrompue. Je suis certain que Jésus a dû sourire devant cette situation. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » De qui est la foi dont nous parlons ici? nous parlons de celle des porteurs. Au premier abord, il semble que c'est la foi de ces hommes qui a sauvé le paralytique. Tes péchés sont pardonnés. Mais en examinant ces versets de plus près, nous découvrons que ce n'est pas leur foi qui a sauvé le paralytique. C'est bien d'avoir une mère qui craint et aime Dieu, mais nous n'allons pas au ciel en se tenant auprès de sa jupe. C'est bien d'avoir un père exemplaire craignant Dieu, mais il ne peut pas nous sauver. Vous devrez personnellement faire un acte de foi. Vous devrez croire personnellement. Si nous regardons ce qui se passe de près, nous remarquons que ce n'est pas la foi des quatre porteurs qui a sauvé le paralytique. La foi de ces hommes a amené le paralytique là où le Seigneur pouvait traiter avec lui personnellement et individuellement. Jésus, voyant leur foi, réfère à la foi qui a poussé ces hommes à amener le paralytique à Jésus. Lorsque Jésus a vu cela, il s'est ensuite adressé au paralytique personnellement et lui a dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Nos églises ont besoin de porteurs de brancards aujourd'hui, des hommes et des femmes qui ont la foi pour amener les non-convertis à l'église afin qu'ils entendent l'Évangile. Le péché, l'indifférence et les préjugés paralysent de nombreuses personnes aujourd'hui. Ces personnes ne viendront pas à l'église entendre l'Évangile à moins que vous acceptiez de soulever un bras du brancard et de les y amener. C'est ce qu'ont fait ces hommes. Ils ont eu la foi nécessaire pour amener cet homme paralysé au Seigneur Jésus, et ils l'ont entendu lui dire personnellement, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Versets 6 et 7. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème! » Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? L'ennemi est là, silencieux, il n'exprime pas sa pensée. La première question n'est pas bonne, mais la deuxième l'est. Cet homme, Jésus, ne blasphémait pas, et il est vrai que seul Dieu peut pardonner les péchés. Aucun juge n'a le droit de libérer un criminel. Son rôle est d'appliquer la loi. Dieu règne sur l'univers et il doit faire respecter ses propres lois. Dieu est juste et il ne peut pas ignorer sa propre loi. Ayant fait ses lois, il leur obéit et personne ne peut s'y soustraire. Ses lois sont immuables et elles nous condamnent devant Dieu. Nous avons besoin d'être pardonnés et Dieu est disposé à pardonner. Cependant, ne faisons pas l'erreur de penser que Dieu pardonne, car il est bonasse. Il nous pardonne, car Christ a payé pour tous nos péchés. Jésus ne blasphémait pas, car il est Dieu. De plus, il pouvait pardonner les péchés parce qu'il est descendu sur terre afin de nous procurer un moyen de salut, pour nous aussi bien que pour le paralytique. Verset 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Les scribes n'ont pas exprimé leurs pensées, mais Jésus lit dans les cœurs. Il essaie de les amener à s'exprimer, mais les scribes se sont déjà frottés à Jésus, et c'est eux qui sont repartis avec un nez ensanglanté. Ils ont cru qu'il était préférable de garder le silence, ce qu'ils ont fait. Jésus leur demanda donc, verset 9, « Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés », ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Ils n'avaient pas du tout envie de répondre à cette question. Ils se taisaient, mais cela n'empêchera pas Jésus de poursuivre. Ils connaissaient leurs pensées. Nous lisons dans Jean, chapitre 2, verset 25. Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qu'était dans l'homme. Maintenant, Jésus place les scribes en mauvaise posture. Est-il plus facile de pardonner les péchés de cet homme ou de le faire marcher? Même si les scribes n'ont rien dit, il est facile de deviner qu'ils auraient répondu qu'il était impossible de faire ces deux choses. Seul Dieu le pouvait. Ils auraient eu raison, et c'est pourquoi Jésus a dit à cet homme de prendre son lit et de marcher. Versets 10 et 11. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Un commentateur écossais a dit que Jésus lui a demandé de prendre son lit et de marcher, car il ne retombera pas malade. Il n'aurait plus besoin du brancard. Désormais, cet homme marchera. Lorsque Jésus guérit, il fait du bon travail. C'est du 100%. Versets 12 à 14. Et, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. L'action se poursuit dans cet évangile. Même si nous ne sommes pas devant un miracle, il y a beaucoup d'action dans l'évangile de Marc. Ici, Jésus appelle Lévi, connu sous le nom de Matthieu, à le suivre. Matthieu était de la tribu de Lévi, la tribu affectée au service du temple. Lévi était devenu un publicain. En passant, ce verset répond à la question au sujet des 10 tribus perdues d'Israël. C'est ici l'un des nombreux cas où l'on rencontre un Israélite membre d'une tribu autre que celle de Juda. Quiconque affirme qu'il y a 10 tribus perdues se trompe. Mes amis, les 10 tribus ne sont pas perdues. Ici, nous voyons un membre de la tribu de Lévi devenir un disciple de Jésus-Christ. Maintenant, il s'est passé quelque chose de remarquable au moment de l'appel de Matthieu, et il ne nous en parle pas dans son évangile. Matthieu ne nous a pas parlé du repas auquel il a invité ses amis pour qu'ils rencontrent Jésus. Les amis de Lévi étaient considérés comme des pécheurs, car ils étaient collecteurs d'impôts, et à cette époque, c'était un beau métier pour quelqu'un qui désirait s'enrichir rapidement et surtout malhonnêtement. Versets 15 et 16. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Avez-vous remarqué qu'il y dit à 3 reprises que les invités étaient des publicains et des gens de mauvaise vie? Il ne semble pas qu'il y ait eu une personne honnête sur la liste des invités. L'élite sociale ne se trouvait pas à cette table. Les publicains viennent en tête de liste car ils étaient des collecteurs d'impôts. Verset 17. Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Chers amis, quelle belle réponse! Nous ne faisons pas venir un médecin lorsque tous se portent bien. Vous invitez le médecin lorsque vous êtes malade. Le Seigneur Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il a dit cela car il y avait seulement des pécheurs parmi les invités. En fait, les scribes et les pharisiens étaient aussi des pécheurs. Il n'y avait aucun juste de présent, mais les scribes et les pharisiens ne se rendaient pas compte qu'ils étaient pécheurs. Verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient, et ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Ces hommes étaient sous la loi, mais la loi ne donnait pas de règlement au sujet du jeûne. Dieu avait établi 7 fêtes pour son peuple, pas des jours de jeûne. Versets 19 et 20. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Ce que Jésus dit, c'est qu'il est plus important d'être en communion intime avec lui que de jeûner. C'est toujours le cas aujourd'hui, mes amis. C'est une chose que d'être une personne religieuse et de jouer aux chrétiens, mais c'est une autre chose que goûter à une communion intime avec Dieu et de l'aimer. Versets 21 et 22. Personne ne coûte une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Le Seigneur illustre son enseignement avec 2 exemples de la vie quotidienne. Il affirme qu'il n'est pas venu faire reluire la loi davantage. Il n'est pas venu pour ajouter quoi que ce soit à la loi mosaïque. Il n'est pas venu pour réformer ou perfectionner la loi. Il apporte quelque chose de nouveau. Il n'est pas venu coudre une pièce sur un vieux vêtement, mais il est venu nous en livrer un neuf. Sous la loi, les hommes travaillaient, mais leurs œuvres étaient comme un vêtement souillé. Le Seigneur est venu apporter un nouveau vêtement de justice qu'il remet à ceux qui lui font confiance. Ceci permet aux pécheurs pardonnés de se tenir devant Dieu. C'est la vérité merveilleuse que Jésus nous enseigne, mes amis. Le Seigneur n'est pas venu pour ajouter à la loi ou à la religion de l'Ancien Testament. Il est venu nous présenter quelque chose de tout à fait nouveau. Cet élément nouveau, c'est sa mort à la croix pour les péchés du monde. Un vin nouveau se met dans des outres neuves. Un nouveau vêtement est donné à un homme nouveau. Ce vêtement de justice est remis à ceux ou celles qui deviennent enfants de Dieu par la foi. Quelle vérité merveilleuse! Toi, cher ami, as-tu demandé à Dieu de te revêtir de ce vêtement neuf? Dans la dernière partie de ce chapitre, nous abordons la question du sabbat. Nous examinons ce qui se faisait hors des synagogues le jour du sabbat. Au prochain chapitre, nous verrons ce qui se faisait dans les synagogues. Nous voyons aussi ces 2 incidents dans Matthieu et Luc. Ils sont importants, car c'est à cause de la question du sabbat que l'élite religieuse a rejeté Christ. Après ces épisodes, ils cherchèrent à faire mourir Jésus. Au cours de ces incidents, Jésus a affirmé qu'il était le maître du sabbat. Dans la synagogue, il a fait du bien le jour du sabbat. Donc, la question à répondre est celle-ci. Jésus, a-t-il violé le sabbat lors de ces événements? Guérir l'homme à la main sèche était-il une violation de la loi concernant le sabbat? Absolument pas. Jésus est venu accomplir la loi, ici. Il nous donne une interprétation de la loi. Il révèle qu'il est maître du sabbat, et que faire le bien ce jour-là était la chose la plus importante. Le Seigneur, lorsqu'il s'agissait de faire du bien autour de lui, ne prenait pas de congé. Et nous, lorsque nous voyons des gens souffrir, et que nous pouvons les aider, pourquoi attendons-nous trop souvent à plus tard? Prochaine émission. Marc chapitre 2 verset 23 à chapitre 3 verset 35.
Merci Régent. J'ai bien aimé ce que tu as dit concernant une mère qui craint Dieu et qui l'aime. Tu as mentionné que son enfant ne pouvait pas aller au ciel en se tenant après sa jupe. Tu as dit aussi qu'un père exemplaire craignant Dieu ne pouvait pas sauver son enfant. Tu as dit qu'il fallait croire personnellement, qu'il fallait faire un acte de foi. J'ai entendu tellement de gens dire qu'ils étaient sauvés par leur baptême lorsqu'ils étaient bébés, leur profession de foi ayant été faite par leur parrain ou leur marraine. Mais j'ai jamais lu ça dans la Bible. La parole de Dieu nous enseigne qu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Tout comme le paralytique à qui Jésus a dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». On a vu aujourd'hui que la foi des quatre porteurs qui ont amené le paralytique à Jésus a été utile pour amener le paralytique à Jésus, justement. Tout comme notre foi nous amène, nous les croyants, à amener des gens à connaître Jésus qui peut les sauver s'ils croient en lui, mais pas par notre foi. Mon ami, crois-tu en Jésus? Crois-tu que le péché te paralyse et t'empêche d'être dans la présence de Dieu? Dieu t'aime, mais il déteste le péché. Heureusement, il veut te pardonner. Mais tu dois mettre ta confiance en Jésus seul pour être pardonné. Tu dois te repentir, c'est-à-dire te détourner de ta vie de péché pour te tourner vers Jésus qui a payé en entier la dette que tu avais envers Dieu à cause de tes péchés. Dieu seul peut te donner la force de te détourner du mal. Dieu seul peut te sauver. Dieu n'est pas compliqué. Il t'invite maintenant à recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Si tu reconnais que tu ne mérites pas d'aller au ciel, mais que Dieu t'offre ce cadeau qu'il a payé de son sang, de sa mort à la croix, eh bien, demande à Jésus de te sauver maintenant. Si tu crois en Jésus, j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je veux que tu entres dans ma vie maintenant. J'admets que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je sais que je ne mérite pas d'aller au ciel. Mes bonnes œuvres, mes souffrances ne suffisent pas pour me donner la vie éternelle. Maintenant, c'est à toi seul que je veux faire confiance, lorsque tu es mort sur la croix pour moi. Toi qui es le seul à n'avoir jamais péché, tu as pris mon châtiment sur toi. Sauve-moi, Seigneur. Je te reçois comme sauveur, comme Seigneur et maître de ma vie. Aide-moi à me détourner de mes péchés. Merci pour le cadeau que tu me donnes. Merci pour le don gratuit de la vie éternelle. Amen. Eh bien, mon ami, si tu as fait cette prière avec moi, je t'encourage maintenant à aller le dire à quelqu'un. Dis-lui comment Jésus t'a sauvé, comment Jésus t'a donné la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais savoir, j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité.
Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. À demain.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.